Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec le podcast de la rédaction. Aujourd'hui, podcast 117, et je peux même le faire sans les notes. Pourquoi ? Bah, vous verrez les vidéos de CAF sur Twitter et compagnie de Gameblog. Un podcast 117 que vous avez été très nombreux à attendre pendant des semaines, et c'est pour ça qu'on vous a fait patienter un petit peu, histoire de bien le préparer. C'est une saga aujourd'hui, une saga dédiée à un grand nom du jeu vidéo. Il est américain, il s'appelle Tim, et surtout Tim Schafer. C'est le créateur de nombreux jeux qui sont restés dans l'histoire du jeu vidéo, des Secret of Monkey Island, en passant par les Maniac Mansion, Day of the Tentacle, Full Throttle, Grim Fandango, Psychonauts, et là, très récemment, il y a quelques semaines à peine, Brutal Legend, que Angel a pu tester et approuver, clairement, qui est sorti sur Xbox 360, PlayStation 3, voilou, un jeu qui revisite un petit peu l'histoire du rock'n'roll de manière complètement... Je sais pas comment tu le qualifierais, Angel ?
Barré ?
Ouais.
C'est un hommage.
C'est un hommage.
C'est un hommage.
C'est vrai, un hommage au métal.
Voilà.
Vous pouvez lire aussi l'interview d'ailleurs de Monsieur Schafer.
Ouais, super interview, effectivement assez intéressante pour quelqu'un qui est là dans le milieu du jeu vidéo depuis lui. Plus de 20 ans, eh oui, puisque ça a commencé en 1987. Pour certains, vous ne comprendrez pas pourquoi je dis ça, mais d'autres comprendront. Et donc, dans ce podcast, on va voir son parcours, ses débuts, qui n'ont pas toujours été évidents au début, ses mentors aussi, quelques anecdotes assez riches et croustillantes. On verra un petit peu que ces jeux ont souvent eu un très beau succès critique, mais pas toujours une grande audience en termes de résultats de vente. Mais en tout cas, clairement, c'est un personnage du milieu du jeu vidéo. Il a plein de choses à dire. Et donc, on va commencer ce podcast, bien sûr, podcast dans lequel vous retrouverez Raan, Mr. P, qui est un fan aussi des productions Tim Schafer, CAF et Angel, qui lui, je pense que chez lui, tu as des tableaux de Tim Schafer. Tu le vénères tous les 4 matins, c'est ça ?
Non, je ne vénère pas, mais j'ai beaucoup de respect.
Angèle ne vénère personne.
C'est contre sa religion.
Je ne vénère que Maradona. Et parce que je suis justement maradonien.
Ah, c'est ça,
pas mal. On comprend mieux.
Bon, alors, et bah, tout débute en 1987 avec Maniac Mansion. À l'époque, Tim Schafer n'est pas développeur de jeu, il n'en écrira pas le scénario non plus, il travaille plus à la technique, il va développer les outils de développement de ce jeu.
Il est programmeur d'outils.
Voilà, et participer à la création du scum. Alors qu'est-ce que le scum ? À l'époque même, on appelait ça les scummers, je crois, Angel.
Alors non, alors le scum, c'est le fameux moteur qui servait de base à tous les jeux d'aventure. Mm-hmm.
Le S, c'est scum avec deux M, S-C-U-M-M.
Oui, alors je me souviens plus à quoi les initiales correspondent.
Mr. P s'en souvient.
Tout le monde me tend un truc. Alors c'est Script Creator Utility for Maniac Mansion.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Voilà, et d'ailleurs, ça a été, en fait, c'est à l'origine. Alors maintenant, tous les outils de développement chez LucasArts, c'est devenu une tradition, portent des noms dans le genre.
Chelou.
Voilà.
Oui, parce qu'il faut savoir que scum en anglais, c'est la racaille. C'est forcément une vanne aussi en même temps en parallèle. Donc, un truc très Lucas.
Donc, alors par exemple, là, j'ai d'autres exemples. Le scum en dehors. Attendez, j'ai 2 minutes.
Qu'est-il en train de lire ?
Est-ce que tu veux que je dise un truc en attendant ?
Oui,
je te laisse
oui,
30
oui.
Secondes.
Dis quelque
chose
bon, de alors, passionnant.
Je vais dire quelque chose de passionnant. Alors, sachez quand même qu'à l'époque, au moment où il rentrait chez LucasArts, donc à la fin des années 80, il y a Tim Schafer assez récemment qui a raconté un petit peu son entretien, son embauche téléphonique, qui apparemment avait été complètement catastrophique. Il avait envoyé, et ça c'est, je trouve ça vraiment original et ça dénote bien de l'esprit du personnage, il avait envoyé un CV sous forme d'aventure textuelle. Ça, je trouve ça génial.
Oui, alors donc quand il sortait, il avait eu son diplôme de computer, je sais pas quoi.
Ingénieur ou un
truc comme ça. Voilà, c'est les diplômes américains. Donc il était en période de je cherche un boulot. Il était en job hunting et il a commencé à envoyer des CV à droite à gauche. Et comme il était fan de jeux vidéo, il a envoyé un CV notamment à Atari, qui à l'époque, c'était comme il le dit lui-même, comme il le dit lui-même, il dit attention les gars, c'était pas l'Atari de maintenant. À l'époque, Atari, ça voulait vraiment dire quelque chose, c'était fantastique. Et il a envoyé donc un CV, il a reçu une magnifique lettre de refus, vous ne correspondez pas au profil, blablabla. Bla, 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 bla.
Il a aussi essayé chez Hewlett-Packard.
Il a tenté Hewlett-Packard, et comme il dit lui-même, il disait bon, là ça avait rien à voir, mais il prend en référence un. Je sais plus quel auteur qui il expliquait, il disait bon lui il bossait la journée à General Motors et le soir il écrivait des livres et je me suis dit si lui peut le faire pourquoi pas moi. Et finalement en se baladant dans un campus il finit par tomber sur une offre d'emploi de Lucasfilm. Donc, parce qu'à l'époque, Lucasfilm Games, parce qu'à l'époque, ça ne s'appelait pas encore LucasArts. Donc, une offre d'emploi, on recherche un assistant machin, game designer, ou je ne connais pas l'intitulé, donc il appelle. Et là, l'entretien est catastrophique. Catastrophique. Il ne sait pas exactement quoi raconter, et à un moment, il explique qu'il est fan de Ball Brazier ou un truc dans le genre, je sais plus comment il l'appelle. Et donc l'interlocuteur qu'il a au téléphone lui dit ah, c'est très bien, sauf que c'est le nom qu'a la version pirate en fait de notre jeu.
Fail.
Et là oups. Et donc il continue de broder, mais bon, il voit bien que c'est foutu, mais le mec finit quand même par lui dire bon bah vous avez qu'à envoyer un CV. Et lui il raccroche, il se dit bon bah foutu pour foutu, je vais envoyer un CV sous forme d'aventure textuelle comme on faisait à l'époque. C'est-à-dire quand il n'y avait pas d'interface justement,
c'était les jeux, vous êtes le héros.
Oui, les jeux
avant le SCUM justement.
Voilà, les jeux d'aventure se jouaient au clavier, il fallait taper genre
ouvre port, aller au sud.
Et il envoie un truc dans le genre où le scénario c'était lui qui trouve une offre d'emploi pour Lucasfilm et qui finit par dégoter le job. Il a eu de la chance et ça a réussi, ça a marché.
Ils ont réussi à finir le jeu.
Ouais, il reçoit donc quelques semaines plus tard, il reçoit une lettre qui lui propose donc un contrat payé 500 et quelques dollars la semaine.
Pas mal.
Bah, carrément. Ouais, alors donc pour lui c'est fantastique. Il se dit bon, bah, je vais travailler dans les jeux vidéo, je vais gagner pas mal de fric et puis je vais travailler pour la boîte qui a fait, il cite donc quelques jeux de Lucas à l'époque.
Qui marchait bien
et puis surtout qui n'avait rien à voir avec les Star Wars hein, parce qu'il ne faut pas oublier que George Lucas avait créé Lucasfilm Games une des exigences était surtout de ne faire aucun jeu Star Wars.
Ça a bien changé maintenant
mais après ils sont dus en faire de l'argent,
c'était une des exigences et donc il explique, il dit c'est la boîte qui fait ça et ça et ça, il dit ah oui, et puis un certain Star Wars. Et donc il arrive là-bas et il se retrouve à bosser donc sur la fameuse SCUM System.
Voilà, de Maniac Mansion à l'époque.
De Maniac Mansion a développé, a optimisé l'outil, et c'est ce qu'on appelle donc dans la boîte, on les appelait les scummers. Les gens qui travaillent exclusivement là-dessus, on les appelait les scummers. Donc les merdeux, on pourra traduire.
Ah, oui.
Et alors, est-ce que tu as retrouvé, parce qu'on est parti de tout ça, parce qu'à un moment, voilà, tu cherchais dans tes archives, incroyable,
tout à fait. Tout à fait,
moi aussi. C'était le nom des autres outils.
Des autres. Alors, les autres outils, entre-temps, maintenant, ils s'appellent alors les mucus, Flemme, Bill. Et Spit, qu'en anglais on pourra traduire par cracha. Enfin, qu'en français, donc on traduit par cracha. Et donc voilà les outils de développement chez Lucas, ça s'appelle comme ça, et c'est une tradition qui a commencé
avec le SCUM.
Avec le SCUM.
Et donc, pour la petite histoire, qui a été vraiment révolutionnaire en plus, au-delà d'être drôle, parce qu'à l'époque, franchement, le fossé entre les jeux textuels classiques et le SCUM qui permettait d'associer une action à un objet et pas être en train de se dire alors attends, quel verbe il faut employer, etc. Parce qu'avant on avait des analyseurs syntaxiques, les jeunes ne comprennent pas de quoi on parle, mais si vous saviez, on en a chié au départ.
Vous voyez la tête de Mr. P.
Et franchement, c'était d'une simplicité à l'époque, on avait fait ok, maintenant qu'il y a ça, c'est génial, on va enfin arrêter de se prendre la tête. Et c'est là où on a commencé à vraiment profiter de l'histoire sans être embêté par l'interface en fait.
Et ça, c'est ça. Au départ, c'était sous l'impulsion de Ron Gilbert justement, qui lui était là depuis les débuts en fait.
C'est un autre très 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 grand personnage du jeu vidéo et du jeu d'aventure
dont on va parler dans quelques instants d'ailleurs, parce qu'il a pas mal marqué Tim Schafer, Ron Gilbert. Mais juste avant ça, continuons un petit peu dans ses premières époques, parce que finalement Tim Schafer, pour beaucoup, pour le large public du jeu vidéo, c'est un nom peut-être qui vous dit pas grand chose. Pourtant il a participé vraiment à des grands jeux très célèbres, mais pas tant que ça non plus, puisque à son actif il a que 8 participations, 8 jeux titres, on va les citer 87 donc Maniac Mansion, mais là il travaillait plus sur les outils de développement. Il a commencé vraiment en 90 sur The Secret of Monkey Island, là cette fois-ci en co-scénariste
et en tant qu'auteur,
ce qui n'était pas d'ailleurs le plan au départ. Il n'était pas censé être co-scénariste, mais on reviendra dessus tout à l'heure.
Ensuite, il y a eu Monkey Island 2, ensuite Maniac Mansion. Là, cette fois-ci, là, il commence à s'étoffer un peu.
Maniac Mansion, Day of the Tentacle, pardon. Voilà. Excuse-moi de te couper. Exactement. C'est la suite de Maniac Mansion.
Tout à fait. Où là, il est quand même co-designer, co-producteur, co-directeur, co-auteur.
Ah, c'est son bébé.
Voilà, il chapeaute tout, vraiment. Et puis en plus, ensuite, s'en suivra en 95 Full Throttle, où là aussi, il fait à peu près tout. En 98, Grim Fandango. 2005, mais là, on reviendra, vous comprendrez pourquoi il y a un aussi large
un gap
de temps avec Psychonauts, et puis donc on le disait en 2009, là il y a quelques jours, Brutal Legend. Mais revenons un petit peu au tout début, c'est vraiment sur l'histoire le côté auteur, écrire vraiment des univers et des univers à part, que la légende de Tim Schafer s'est un petit peu forgée. En tout cas, c'est là que vraiment son style a émergé, Kaf Angel.
Bah, moi, c'est le côté. Il a vraiment fait un truc qui n'existait pas vraiment dans les jeux vidéo avant qu'ils vraiment y s'y mettent, c'est de renforcer l'aspect dialogue, humour et personnages, univers. Mmh. Avant, on avait toujours, alors on allait avoir un univers féerique par exemple qui fonctionne très bien, mais des dialogues un peu plan-plan. Et là, d'un coup, tout se mariait vraiment bien, les dialogues étaient terribles. C'est des trucs qu'on n'avait vraiment pas eu jusqu'à présent, ce travail d'auteur sur les personnages aussi profond. Si on les avait eu, l'univers était peut-être un peu moins recherché.
Il n'y avait pas la cohérence.
Voilà, il y avait toujours un truc qui clochait. Là, le package.
Ça va même plus loin
top.
Que ça en fait, parce qu'en tant qu'auteur, il a aussi du coup écrit des énigmes.
Ouais.
Qui font purement et simplement partie du gameplay de ces titres d'aventure de l'époque, les ouais. fameux point and click, et c'est, les énigmes elles-mêmes étaient des vannes, quoi. C'est-à-dire que
mais
tout était écrit.
J'ai envie de dire que le pour moi, un des monuments, même si je suis pas à la chronologie, mais pour moi, un monument du jeu vidéo, c'est l'intro de Day of the Tentacle, justement. Et tu regardes cette intro, tu te dis, bon, déjà, qu'est-ce qu'il fumait ? Faut être honnête.
Oui,
hein,
pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a sûrement parmi vous. C'est l'histoire, quand même, de l'invasion des tentacules.
Qui veulent conquérir le monde.
Qui veulent conquérir le monde, les tentacules qui n'ont donc pas de membres.
Tentacule, donc on parle bien de tentacules, comme les tentacules
d'une pieuvre. Mais hein, une seule tentacule, attention.
Voilà, c'est une tentacule et les tentacules prennent vie.
Et attention, dans le scénario, ce que tout le monde trouve normal, c'est qu'il y ait des tentacules déjà qui parlent. Et ça, c'est normal. Par contre, une tentacule avec des bras, parce qu'elle a été en contact avec un produit chimique et donc elle a des bras qui poussent, et là d'un coup tout le monde trouve ça incroyable, mais en fait quand tu regardes le scénario, c'était complètement débile, quoi.
Mais c'est ça aussi, enfin, une des forces dans l'écriture de Tim Schafer, c'est de rendre des univers débiles finalement assez cohérents.
Ah, mais complètement cohérent.
On arrive à y croire, et c'est une fois que t'éteins ta machine et que tu commences à essayer de digérer le jeu, tu te dis, putain, je viens de jouer à un jeu où il y a une tentacule qui essaye de dominer le monde, et moi jusqu'à présent j'ai trouvé ça normal.
Et voilà, et en fait elle a les bras qui poussent, mais en fait après tu te dis, mais des tentacules qui parlent, tout est normal. Et cette scène d'intro, elle est mythique parce que la langue de caméra, il est vraiment super. Bah, c'est un truc qu'on n'avait jamais, enfin, pas jamais vu, mais il y a une vraie mise en scène, la caméra en contre-plongée avec la phrase mythique I will conquer the world. Et c'est avec la tentacule qui n'a pas de bras, qui n'a pas été en contact avec le truc chimique, qui est juste à côté et qui est en train de se dire, ok, mon pote pète les plombs, va falloir gérer. Et cette scène, mais j'ai rigolé, je l'ai maté mille fois, quoi. Et surtout, c'est une des scènes, peut-être pas dans la première version, mais où il y a des synthèses vocales.
Alors, si, il y avait des synthèses vocales, mais juste pendant l'intro, en fait.
D'accord.
Juste la séquence d'intro, et il y a eu une édition CD du jeu qui est sortie, où il y avait toutes les voix qui ont
Je
été faites.
Je me suis
derrière.
Évidemment refait le jeu avec l'édition CD, avec l'Averne et les voix complètement improbables du nerd de service. Il y avait un métalleux déjà à l'époque.
Oui, les Oggy.
Oggy, le métalleux. Il y avait, tu vois, bien des années avant Brutal Legend.
Mais effectivement, c'est un mec qui, alors qu'il pourtant il a aucun parcours, enfin d'un point de vue d'études, il a aucune formation de scénariste ou
d'auteur.
Mais
il a juste un talent, quoi.
Il a rien, mais il a très rapidement eu envie d'écrire pour les jeux vidéo, parce qu'avant tout c'était quand même une autre passion. C'est pas un mec qui a atterri dans l'écriture de jeux vidéo en dépit de cause.
C'est peut-être pour
parce
ça qu'il est super bon. Il écrit pour les jeux vidéo.
Il aimait vraiment les deux choses. D'ailleurs, il l'a dit lui-même. Hein. Enfin, dans une de ses déclarations, c'est certains écrivains pourraient beaucoup apporter au jeu, mais notre industrie ne s'est pas encore donné la peine de les chercher et de les former. Parce que c'est un des seuls qui se doute bien que c'est une manière différente d'écrire. Et il a su, comme il avait cette passion du jeu vidéo à l'origine, il a su mélanger les deux plutôt brillamment.
Ah bah c'est clair, pour moi, Death of the Tentacle, enfin voilà, c'est un.
Et en plus, justement, l'époque de LucasArts, ça permettait, ce talent d'écriture et narratif et cette cohérence des univers, ça permettait de compenser une certaine déficience technique. Parce que c'était pas non plus les plus beaux jeux du monde, loin de là.
Jamais. Il a jamais fait les jeux les plus beaux du monde. Jamais.
Ceci étant, même quand il a commencé à écrire finalement sur Secret of Monkey Island, même ça, c'était pas prévu comme ça à la base, en fait. C'est
surtout Monkey Island. Là, ça a été vraiment le shift, en fait. Bah, je sais pas, quelqu'un veut le raconter, mais.
Quand il s'est retrouvé sur Secret of Monkey Island, Ron Gilbert lui-même explique que Tim Schafer et David Grossman sont responsables des deux tiers des dialogues du jeu.
Alors qui au départ en fait devait être un jeu plutôt sérieux. Sur
ça devait être un jeu de pirates.
Voilà,
un jeu avec des pirates.
C'était un jeu de
pirates
basé sur l'attraction de Disney.
Avec un héros qui s'appelait donc Guy.
Ah oui, on va revenir dans quelques instants, pas tout de suite encore, parce qu'il y a l'anecdote effectivement de comment est né Guybrush Threepwood.
Excuse-moi, host.
Quelques instants, mais juste, c'était vraiment articulé autour de l'attraction de Disney.
à l'origine, enfin en tout cas inspiré parce qu'évidemment il y a des histoires de copyright et tout ça, mais oui, ça partait ça,
ah, donc c'est... on comprend mieux un peu le personnage là qu'on retrouve dans les films par exemple, avec les tentacules, etc.
Et là, c'est l'autre bah,
c'est parti dans l'autre sens, j'ai l'impression, ouais, après,
bien
du coup.
Sûr, et d'ailleurs l'ironie du truc c'est que les gens maintenant donc qui ont grandi avec Monkey Island mais qui connaissent pas forcément l'attraction, il y a des gens qui ont douté, qui disaient que c'était clairement une repompe de Monkey Island alors qu'à l'origine c'est plutôt l'inverse.
Pourtant, je crois que dans l'équipe du film, il y en a qui ont avoué avoir joué à Monkey Island.
Les personnages étaient tellement énormes.
Non, mais surtout, il y a des références directes. Enfin, par exemple, le coup de
Mr. P.
de Jack qui rame dans un cercueil. Moi, quand j'ai vu l'ouverture de Pirates des Caraïbes 2, c'était directement, j'ai fait, mais ça, c'est Monkey Island, quoi. Carrément. C'est la même image.
C'est vrai. Ah oui, c'est une transposition directe, j'avais jamais pensé en plus.
Moi non plus, j'avais pas pensé, mais de toute façon, c'est évident que Monkey Island, quelque part, ça fait un peu partie de la pop culture de notre génération. Ouais. Donc c'est pas étonnant que maintenant, dans les grosses productions hollywoodiennes, tu puisses retrouver des...
Et des nouvelles générations grâce aux nouvelles versions, jouez-y.
Tu puisses retrouver des références, quoi, c'est pas très étonnant. Moi par exemple, quand j'ai vu le super méchant de Pirates des Caraïbes avec machin, je me suis dit, bon, lui c'est le Chuck, ça paraît évident. Maintenant, moi, maintenant, je suis jamais monté dans cette attraction, donc si ça se trouve, tu retrouves un le Chuck Lake.
Eh ben, restons à cette époque en tout cas, LucasArts. Effectivement, c'est assez intéressant. Là, tout à l'heure, vous abordiez un petit peu le cas de Ron Gilbert, qui est le créateur des Monkey Island et qui donc a eu une relation assez assez intéressante avec Tim Schafer et qui visiblement, en tout cas, lui a beaucoup appris aussi, puisque Tim Schafer dit qu'il a quand même été très inspiré par Ron Gilbert. Angel, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de sa manière de concevoir ses projets, puisque ça lui a apporté énormément de choses à ce niveau-là?
Ouais, c'est simple et très rapide. Hein. De ses années LucasArts, Tim Schafer explique qu'il retient, dans les choses qu'il retient, c'est Ron Gilbert qui lui a appris à ne pas avoir peur d'un projet, aussi énorme qu'il soit. Il disait, c'est bon, il faut se lancer. Et il expliquait que qu'à l'époque, Ron Gilbert, tu pouvais lui proposer n'importe quoi, les idées les plus folles, le mec te disait toujours oui.
On va trouver une solution après, quoi.
Ouais, c'est oui, on peut le faire. En tout cas, on peut le faire, on tente le coup. Et puis il expliquait d'ailleurs, de toute façon, c'était d'autres temps aussi. Hein. Lucasfilm Games, c'était uniquement une quarantaine de personnes. Et lui-même disait, parce que bon, il a un gros côté humble quand même, Tim Schafer, on pourra revenir après. Mais il a cette humilité. Et donc, quand il a commencé chez LucasArts Film, il expliquait qu'il y avait une quarantaine de personnes et que c'était une quarantaine de personnes que lui-même considérait comme des génies. Et donc il a beaucoup appris à leur côté, mais aussi parce qu'il ne faut pas oublier LucasArts, c'est un certain comment il s'appelle
George
déjà
Lucas.
Un certain George Lucas, c'est ça
qu'on critique très souvent, mais qui en fait apporte parfois des petites fulgurances quand même.
Mais George Lucas, il a toujours été ça rend, on le connaît probablement mille fois mieux que moi, vu que
que quoi?
Enfin, je me comprends.
Mais quoi? Les gens vont croire que j'ai couché avec George Lucas.
Non.
Bah, tu peux le dire maintenant.
Mais les gens.
La prescription.
Georgie, alors.
Les gens sauront peut-être que. Ne savent peut-être pas que tu as regardé la trilogie Star Wars à peu près 200 millions de fois.
Ah oui, ça, je suis pas le seul.
Comme tous les mecs de cette génération, non?
Et donc à l'époque, de toute façon.
La première, précisons quand même.
George Lucas était plutôt impliqué. Enfin,
la première chronologique.
Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que si t'as regardé la première trilogie du million de fois, ça craint.
Avant Jar Jar Binks.
Voilà.
S'il annonçait donc un Lucasfilm Games, c'est parce que bon, il était quand même curieux de tous ces trucs là et que bon, il a aussi vu que ça pouvait leur apporter du fric. Soit.
Mais c'était pas forcément une vision évidente pour la plupart des businessmen de l'époque, hein. Surtout ceux qui travaillaient dans le cinéma et qui avaient connu du succès dans le cinéma. Donc c'est pas...
Surtout qu'il a pas commencé par, comme disait Angel tout à l'heure, ils ont pas commencé par l'exploitation des licences.
Ouais.
Très 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 bizarrement.
C'était en plus c'était une condition sine qua non. Hein. C'est on fait des jeux, mais aucun ne sera basé sur Star Wars.
Ce qui n'a pas empêché cette boîte des années après de faire des adaptations extraordinaire, on en parlera peut-être tout à l'heure.
Et justement, Caf, il y a quelques instants, tu ébauchais l'histoire de Guybrush Threepwood.
Si on peut finir sur George Lucas.
C'était ça.
Pourquoi il l'a inspiré? Ah oui. Bon.
Il est fort.
Parce que
c'est tu vois l'enchaînement logique du gars, c'est pour ça que c'est lui.
Ils ont apporté machin, genre Ron Gilbert, un petit peu mentor de Tim Schafer, mais aussi George Lucas quelque part, parce que il lui a appris l'importance du personnage principal, de caractériser un petit peu les gens. Et justement, il y avait ce fameux héros dans les Monkey Island que George Lucas, quand il passait dans les couloirs, appelait Guy Guy, non. Machin. Et...
C'était même le... c'était son nom dans le jeu.
Ouais. Non, c'est pas George Lucas. Lui, justement, il est sérieux, lui, il connaissait rien, mais il était passé les voir. Donc, Tim Schafer explique que de temps en temps, il passait. Il passait pas tout le temps, mais de temps en temps, il passait. Et il prodiguait donc de bons conseils, comme fait machin. Et un jour, il leur a expliqué que vraiment, développer un personnage principal, c'était super important, les gars, qu'il fallait vraiment le faire. Et ils se sont un peu retrouvés comme des cons. Parce qu'à l'époque, donc, ils étaient en train de développer Monkey Island, le premier, et ils se sont rendus compte que leur personnage principal, il avait même pas de nom, et qu'ils l'appelaient juste Guy. Ils s'en sentaient un peu cons. Et donc, alors comment est venu le nom de Guybrush ? C'est parce qu'à l'époque, donc, on parle en sprite, en termes de sprite, et il fallait faire. Donc les animations, c'était des étapes. Mm-hmm. Et chaque étape, on appelait ça un brush. Donc en fichier, donc les fichiers d'ordinateur s'appelaient Guybrush 1, Guybrush 2, Guybrush 3, etc. Et puis ils sont tombés dessus, ils se sont dit bah, Guybrush finalement c'est très très bien.
C'est pas mal.
Bon, après pour le Threepwood, je veux savoir.
Ah, après le Threepwood.
C'est l'étape demander. 3 qui devait être la meilleure. Ouais. Je
pense que là ils ont fumé des trucs. Mais. Parce que c'est quand même un des noms les plus imbitables quand même de personnage principal.
C'est vrai, mais c'est marrant parce que
oui, tout le monde s'en rappelle. Mais bon, bah, une fois que tu sais le prononcer.
Mais je pense qu'ils le savent vu que c'est un peu la blague qui revient tout le temps depuis le début des Monkey Island. Oui. C'est-à-dire que personne n'est foutu de prononcer son nom de famille.
Bah, je crois que c'est même le premier dialogue du jeu, c'est la première vanne qu'il y a, quoi. C'est le vieux pirate qui n'arrive pas à prononcer son nom. Quoi. Enfin, qui n'arrive pas à le voir aussi accessoirement. Mais...
Il est très très vieux.
Il est très 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 vieux.
Avant de partir sur la suite et sur les devs de Tentacle, Full Throttle et Grim Fandango, qui à ce titre-là, Angel, toi t'as particulièrement marqué, qui a été peut-être pas le jeu qu'on apprécie, enfin qui a eu le plus d'aura dans les productions Tim Schafer, mais tu nous en parleras parce que pour toi il est assez important. Je sais combien les Monkey Island vous touchent là tous autour de la table rouge laquée. Si vous aviez une chose à retenir pour transmettre un petit peu cet amour de cette série, au-delà du fait que c'est drôle, que c'est bien rythmé, que c'est bien écrit,
les musiques pour moi.
Oui, les musiques aussi, ouais. Enfin, et c'est un tout, c'est vraiment un tout.
Enfin, c'est une ambiance, c'est-à-dire que la musique va déclencher une nostalgie parce que le jeu nous a marqué, comme la musique en général, j'ai envie de dire. Mais je trouve que c'était un package qui était tellement bien ficelé de A à Z entre les personnages, les dialogues, l'écriture, les musiques. Les paysages, les ambiances, enfin je sais pas, le bar avec les grottes.
D'ailleurs,
Kaf, hein,
tu nous disais que tu avais racheté une carte son à l'époque.
Grave, moi j'ai été très très loin dans le délire. C'est quand j'ai appris que ce jeu gérait dans une nouvelle version des musiques sur PC, parce qu'il a été adapté sur un milliard de plateformes. Quand j'ai appris qu'il gérait un truc qui s'appelait à l'époque le MT32, c'était un synthétiseur, un vrai, un truc que t'achetais quand tu faisais de la vraie musique, Roland. Moi j'ai découvert que ça faisait des musiques superbes, et là j'ai fait ok, il m'en faut un. Donc j'habite en province à l'époque. Donc une galère pas possible, j'ai fait des petites annonces de la province en question pour réussir à trouver cette boîte à brancher sur mon ordi, et quand j'ai branché ça sur ma chaîne Hi-Fi et que j'ai entendu les premières notes avec le synthé, alors là je me suis écroulé, j'ai fait ok je refais le jeu. Et c'était juste à tomber par terre pour l'époque, et même maintenant parce que c'est des sons de MIDI, donc maintenant on a des trucs CD etc, mais la qualité du rendu sur les musiques MT32 était juste hallucinante, quoi. Bon, évidemment pour les voix et tout ça, les bruitages c'était pas fait pour, hein.
Rarement. Moi, c'est surtout l'humour que je retiens, quoi. C'est vraiment un des jeux qui m'a fait pisser de rire, mais. Enfin, c'est rare. Quand tu penses combien de jeux nous ont fait mais rire à gorge déployée comme ça. Alors là, c'est.
Bah ouais, c'est moi,
les
c'est
combats d'insultes et tout. C'était à se pisser dessus, quoi. Et c'est toujours à se pisser dessus, d'ailleurs. C'est ça qui est fantastique. Et c'est là qu'on voit à quel point c'est super bien écrit. C'est que nostalgie ou pas nostalgie. Bon, après, le ludisme, c'est reste du point and click. Donc, c'est peut-être un peu aride pour certains joueurs d'aujourd'hui. Mais les dialogues et l'histoire, tu les refais aujourd'hui dans les versions en remake sont disponibles soit sur Xbox Live Arcade ou iPhone. Enfin, la version iPhone n'est pas géniale. Mais la version Xbox Live Arcade est très bien. Ça vaut vraiment le coup de les refaire et de découvrir cette histoire, ces personnages, ces ennemis complètement barrés et tous ces trucs qui sont à se pisser dessus de rire, quoi. C'est vraiment super bien écrit, quoi.
Mr. P, toi, ce serait quoi que tu retiendrais ?
Bah, de toute façon, ça pareil. C'était pour moi, c'était mes premiers vrais gros jeux sur PC, les jeux d'aventure, les Monkey Island. Non, je sais plus. Non, mais pareil, voilà. Enfin, c'était vraiment l'humour barré, les énigmes parfois complètement débiles. Le coup du singe pour fermer le robinet de la cascade, celui-là, je m'en souviendrai, mais toute ma vie, je crois.
Et ça, il y a beaucoup de gens qui lui ont reproché aussi, parce que parfois, c'est des énigmes tellement barrées que du là, coup, c'était si vraiment... pas dans son cerveau à lui, oui, c'est pas possible.
Justement, un fidèle lecteur m'a fait remarquer après un podcast où on avait déjà parlé de cette énigme, m'a signalé qu'en fait, en anglais, c'était un jeu de mots anglais qui avait mal été traduit. Donc, parce que utiliser le singe pour fermer la cascade, donc s'en servir comme une clé à molette, Donc clamelette en anglais c'est Monkey Wrench. Et donc c'était un jeu de mots,
yes.
Machin, utiliser le singe monkey pour fermer la cascade, donc comme une clé à molette. Merci à ce lecteur, parce que j'avais pas percuté, à l'époque je ne parlais pas anglais.
Effectivement, et c'est ça le problème aussi, c'est qu'à l'époque il n'y avait pas tellement de VF, ou alors, enfin si, il y en avait.
Mais faut quand même VF ou pas, c'est juste intraduisible.
Oui, bah oui, voilà.
C'est le problème de cette série en général, c'est intraduisible, et ça a été un problème, c'est un style d'écriture qu'ils ont gardé même après, quand on Schiffer, sur des jeux de Lucas, mais pas du tout des trucs de Schiffer, mais dans l'Indiana Jones, je me rappelle d'énormes problèmes de traduction à cause de ça. C'est les jeux de mots, les trucs anglais, ça passe pas du tout en français, et quand tu fais une énigme autour de ça, les traducteurs ils se tirent des balles. C'est normal.
On va avancer un petit peu, rebrousser l'histoire des grands jeux de Tim Schafer. Donc après Monkey Island 2, le Chuck's Revenge. En 93, il y a Maniac Mansion, Day of the Tentacle. Ça vous a laissé aussi de grands souvenirs. Qu'est-ce que ça apportait?
Pour moi, je le mets même devant, en fait. Putain, j'ai du mal.
C'est dur.
Mais ouais, c'est pour moi, ça a été mon jeu. Enfin, voilà, les point and click. Après, j'ai eu envie d'arrêter. Tu vois, tellement c'était celui-là, j'ai trouvé extraordinaire.
Qu'est-ce qu'il apportait? Pourquoi?
C'est un univers complètement barré. Là, tu parlais du singe. Bon, enfin, moi, je me rappelle de spaghetti qu'il fallait mettre sur la tête d'un squelette pour faire peur à un mec.
Moi, c'était les matelas.
Oui,
le coup des matelas a échangé. Je crois que c'est là. Je suis resté des jours dessus à pas comprendre.
Il y a des énigmes complètement barrées. Ça, on est complètement d'accord. Mais ce que ça a apporté pour moi, c'est cet univers, ce qu'on disait tout à l'heure, justement, complètement loufoque. Mais à côté de ça, crédible. C'est-à-dire que bon, les tentacules, en fait.
Ça parle de quoi, Day of the Tentacle?
C'est deux tentacules qui vivent dans une maison, machin. Il y en a une. Donc, en
déjà,
fait,
bon,
déjà,
okay, très bien.
Et en fait, voilà, c'est ça qui est génial au niveau de l'écriture, c'est que jusque-là, tout est normal. C'est ce qu'on disait. Là, on se répète du coup, mais il y en a une qui est en contact avec un truc chimique pollué, etc. Et elle a des bras qui poussent, donc à peu près 2 cm. Mais du coup, elle a des mains. Et là, elle va conquérir le monde. Elle pète un câble, en fait. Et donc, t'as son copain tentacule qui est juste un peu genre, mais t'es sûr? Tu vois, qui fait un peu l'acolyte, mais un peu contre sa volonté. Et ça, c'est la séquence d'ouverture. Et déjà, t'es mort de rire. Et tu fais, ok, ça va être n'importe quoi. J'aime. Et ça enquille direct avec une séquence d'ouverture où tu vois les trois personnages.
Voilà, en fait, la tentacule verte, du coup, prend contact avec Bernard, qui était un des personnages qui était déjà dans le premier Maniac Mansion, qui est donc le nerd à lunettes.
Le nerd.
Binoclaire bedonnant, ultra coincé, qui reçoit donc le message de la tentacule, qui lui dit, voilà, mon tentacule pourpre va conquérir le monde, il faut faire quelque chose. Donc du coup, avec ces deux roommates, Laverne, donc l'étudiante en bio complètement cinglée, qui veut disséquer des hamsters.
Mais geek avant l'heure quelque part.
Ouais, voilà. Il y a Oggy donc qui est le rôdi métalleux, voilà.
En devenir. Ah, c'est l'enfant. Je pense que c'est l'enfance de Eddie.
Voilà, exactement.
De Brutal Legend. Ouais.
Qui ils partent tous les trois donc chez le professeur.
Je ne sais plus.
Ils ont tous des noms. Ned, Ed, Red. Je sais plus. Edison, Ted. Je sais plus lequel c'est. Parce que c'est toute une génération comme ça. Et ils arrivent donc au manoir et commencent à enquêter sur la chose. Et c'était d'ailleurs une séquence d'ouverture en plusieurs parties, vu qu'on commençait à jouer un tout petit peu. Et ça, ensuite,
c'est une des premières séquences d'ouverture qui te met dans le bain. Tu joues un petit peu, ça fait avancer l'histoire, etc. Et en fait, on te lâche que vachement après, tu vois. Ça se faisait pas du tout à l'époque.
Et donc,
un peu plus cinématographique, finalement.
Tout de suite, il y a l'introduction de gameplay qui se passe, et que pendant cette séquence d'intro, il y a projection temporelle. Donc, Oggy qui se retrouve dans le passé, Laverne dans le futur. Et
là, tu sens que ça va être la merde.
Et voilà. Et déjà en passant par des chrono-VC, quand même.
Et performance de gameplay, c'est que les trois histoires se croisent.
Voilà.
Ouais.
Voilà. Et d'une manière parfaitement logique. Alors, faut pas demander pourquoi. Justement, c'est la beauté des LucasArts de l'époque. Donc, l'école Tim Schafer, enfin, là où il a grandi, Tim Schafer, c'est que les histoires se croisent. Et quand on y repense, on se dit que c'est pas possible.
Ouais.
Mais finalement, sur le coup, ça paraît parfaitement logique.
En fait, sur le coup, t'en tues bien.
Mais carrément. Non,
mais c'est une fois qu'on éteignait l'ordinateur et ce qu'on disait, on se répète. Hein, tu digérais le truc, tu disais, mais attends, en fait, c'est n'importe quoi ce qui se passe.
En fait, c'est après que tu réalises que c'est des tentacules qui parlent. Ouais. Et en fait, ce qui est pas normal, c'est qu'elle ait des bras. Et tu fais, non, ce qui est pas normal, c'est qu'il y a des tentacules qui parlent, mec. Mais au départ, tu t'y penses pas.
Mais moi, je me souviens justement sur la logique LucasArts. Ça vient bien plus tard, mais j'ai une anecdote à l'époque de Joystick. Et d'autres magazines comme ça. Donc il y avait un certain Captain Taras qui faisait la soluce du Monkey Island 4, qui est pas terrible, mais bon, bref. Et il galérait. Et moi, comme j'avais un peu l'habitude, je lui ai dit, vas-y, attends, je vais t'aider. Je l'avais pas fait, hein. Mais donc j'arrive, je vois l'énigme, et puis je fais, attends, regarde, c'est utiliser marionnette sur rocher. Et là, le bateau, il va lancer le pirate, et là, la maison, elle va s'effondrer, machin. Je fais, c'est logique. c'est logique. Et là, Taras, qui était pas quelqu'un de bisounours, on va dire, il était là, il dit attends, c'est logique, mais je vais te défoncer la gueule, c'est logique. Et il dit attends, toi, utiliser marionnette sur rocher, toi, ça te paraît logique. Je dis bah ouais. Voilà. Et c'était une certaine logique LucasArts qu'il fallait apprendre à maîtriser.
Une certaine logique débile sous LSD, mais effectivement, au bout d'un moment, après, ça ne peut rien te choquer en fait.
Écoutez, en tout cas, bon, ce qui est intéressant, en tout cas, avec Tim Schafer, c'est de voir que c'est pas quelqu'un qui s'est reposé sur ses lauriers, clairement pas. Quelqu'un d'humble, clairement, on l'a dit, on reviendra dessus tout à l'heure. Mais aussi quelqu'un qui aime bien à chaque fois renouveler, se mettre de nouveaux défis. C'est pas quelqu'un qui a cultivé les suites, clairement pas, puisqu'après Death the Tentacle, on change complètement d'univers. Et là, on arrive en 95 avec Full Throttle, un jeu qui a plus rien à voir. Est-ce qu'on peut avoir un petit pitch
Non, ça reste un jeu d'aventure. Hein,
voilà, ça reste du point and click, mais c'est déjà. C'est un nouvel univers, mais comme toujours, de toute façon, avec les jeux Tim Schafer, on part toujours dans un nouvel univers avec de nouveaux persos, une autre ambiance. Et là, l'ambiance, c'est l'ambiance biker. Et c'est toujours drôle, mais c'est quand même un humour plus sombre. Là, on tombe plus dans le mature.
Ouais, l'ambiance n'a rien à voir là-dessus. C'est plus du tout de l'humour un peu léger.
Un peu Scooby-Doo.
Ouais, on est sorti du pipi caca là.
Ouais.
Là,
j'ai failli dire ça, et en fait, comme les autres, ils sont pas non plus là-dedans. Mais
non.
Là, c'est vraiment, il a donné un ton beaucoup plus adulte en fait à toute la série, et qui était renforcé par la réalisation, qui était aussi très différente. C'était la première fois où on avait, enfin, pas la première fois, mais il jouait vraiment des plans cinématographiques. C'était pas de la 3D, mais tu vois,
c'était de la 3D précalculée, quoi.
Ouais, voilà. Et en fait, t'avais vraiment des séquences genre ouverture de porte à coup de pompe en étant juste derrière la porte, des trucs que t'avais pas du tout avant, parce qu'on voyait vraiment le décor en plan large. Enfin, il y avait des gros plans, mais c'était pas du tout exploité de la même manière. T'avais des séquences action.
Ouais. Pas très intéressante d'ailleurs.
À chier.
Voilà.
Ah ouais. Non, il y a eu des tentatives.
C'était un bon
de
jeu
gameplay.
Ou pas?
Moi, je l'ai trouvé moyen. Très honnêtement, parce que justement le gameplay se diversifiait beaucoup, enfin pas beaucoup, mais il y a eu des tentatives, il y avait des trucs, il y avait des séquences où justement le biker en question, le héros, était en moto, il fallait qu'il arrête un camion, etc. C'était presque too much, et du coup tu perdais le côté écriture qui est la force à mon avis de Tim Schafer, surtout à l'époque, et qui maîtrisait pas encore le côté gameplay pur.
En plus c'était assez court, si je me rappelle bien, comme aventure, voilà. Donc c'était assez court, c'était pour moi aussi, c'était pas très novateur en fait, parce que voilà, bon, il a essayé d'apporter des trucs mais qui servaient pas vraiment.
Non,
c'était desservait plutôt, même, je pense, parce
c'était un essai qui était louable, on va dire, mais qui n'est pas resté dans les esprits comme un jeu extraordinaire sur tous les points de vue.
Alors moi non plus, je l'ai pas trop aimé. Hein, c'est probablement un des.
C'est un des plus faibles.
C'est le jeu que j'ai le moins aimé. Mais par contre, je retiendrai quand même, comme d'habitude, donc une nouvelle ambiance chez Tim Schafer.
Ah oui, non, complètement.
Un nouvel univers, et puis déjà la mentalité de se dire que le joueur, c'est pas forcément un gamin de 10 ans. Donc déjà, tenter des jeux un poil plus matures pour toucher un public. Enfin, déjà une certaine conscience que les joueurs sont pas forcément des préadolescents et qu'on peut parler de choses plus sérieuses, en tout cas plus d'action.
Surtout que l'univers biker, etc., c'est un truc de gosse.
Parce que nous maintenant ça nous paraît logique, mais là on parle, c'est en 95 quoi.
Ah non, moi j'avais fait le test pour des mags pro PC, etc. à l'époque, et t'es un peu embêté quand tu dois le positionner en fait, hein, parce que on n'avait pas vu ça souvent avant.
Alors en tout cas, visiblement, vous êtes assez d'accord sur la qualité d'ensemble de Full Throttle, de savoir ce qu'il apporte, et peut-être l'un des jeux les moins aboutis de Tim Schafer, en tout cas.
Il trahit déjà finalement quelque chose qu'on peut lui reprocher au global, qui est effectivement de s'éparpiller un petit peu en termes de gameplay.
Ouais, carrément.
Alors, c'est un travers qu'on a pu retrouver un peu plus tard dans d'autres de ces jeux dont on va reparler.
Mais il aime bien essayer des trucs, mais en même temps c'est plutôt louable.
Ouais, mais c'est vrai que c'est pas forcément sa grosse force quoi.
Ouais, il sait pas se recentrer. Si jamais ça rate, ça va peut-être passer quand même. Tu vois, dans le produit final. Alors t'as des créateurs qui vont recentrer le débat.
Quoi qu'il en soit, 3 ans plus tard, en 98, sort Grim Fandango, qui est probablement pas le plus connu, mais qui en tout cas, Angel, toi, il a une part à place à part un petit peu dans les titres de Tim Schafer. Tu peux nous en parler? Alors, il est très particulier en tout cas.
Alors pour moi c'est le jeu Tim Schafer par excellence. Voilà, la base, s'il faut résumer l'esprit Tim Schafer dans un jeu, c'est celui-là vraiment. Alors
pourquoi?
Donc, on repart une fois de plus, on repart dans un nouvel univers qui est complètement délirant, ultra bien écrit,
super riche,
mais en termes de personnages.
C'est quoi cet univers? Parce qu'il est visuellement très particulier.
Alors le pitch, pour faire simple, on dirige donc Manny Calavera, et Manny Calavera donc est un passeur qui travaille donc dans le purgatoire, Et son job, donc, c'est de ramener les âmes, c'est de guider les âmes au paradis. Mmh. Et tout ça dans un univers très
Mexique, Cuba.
C'est aztèque. C'est vraiment, c'est le Mexique. D'ailleurs, il y a déjà des voix enregistrées. Donc tous les personnages ont des accents mexicains.
Mmh. C'est clair.
Tous. C'est assez particulier, c'est vraiment super drôle.
Ils ont pas des têtes de mort ou...
Si, enfin, si, bien sûr, Calavera, ouais. Donc tête de mort en espagnol. Ouais.
C'est pas du tout des personnages réalistes. Hein.
Non, ça fait un peu jeu Tim Burton, ouais, si tu ça. Veux.
Ouais, il y a une petite inspiration Tim Burton peut-être. Et donc son job, c'est d'être passeur, mais il se rend rapidement compte que dans son job, parce que c'est une société, c'est très corporatiste, cette société, elle est complètement corrompue. Et donc on vend des passages plus rapides, genre façon TGV, parce que normalement c'est une sorte de voyage, et lui il doit les guider. Mais il y a des mecs qui bénéficient d'une sorte de ticket première classe. Et c'est pas parce qu'ils ont été meilleurs en fait dans la vie, c'est juste parce qu'ils ont plus de pognon. Ouais. Ils se rendent compte en fait que le monde est complètement corrompu.
Même au purgatoire.
Et en fait, ils découvrent un mouvement underground composé. Tu vois, c'est comme des révolutionnaires mexicains. Tu vois, mais façon Cuba de la bonne époque. D'ailleurs, il y a un mec, c'est juste Che Guevara, mais avec une tête de mort. Mais il a le bonnet qui va bien. Et ils sont en train de monter quand même une sorte de révolution pour faire tomber ce système de république bananière, quelque part. Voilà. Et
tout ça dans le monde des morts.
Et tout ça dans le monde des morts. Tu vois, donc on en revient encore. Ça paraît parfait, ça paraît pas logique du tout, mais une fois qu'on est dedans, le truc est super crédible. Mmh. Une fois de plus, c'est super bien écrit. D'ailleurs, je pense que c'est un de ceux. C'est un de ceux qui est le mieux écrit. Les décors sont tous magnifiques, mais c'est à tomber par terre tellement c'est beau, tellement c'est. Enfin.
Ben moi, bizarrement, à l'époque, c'est moi ça m'avait rebuté, quoi, parce que je crois que c'était le premier jeu de LucasArts en 3D.
Ouais. En tout cas, le jeu d'aventure, c'est le premier point and click en 3D. Ouais.
Point and click en 3D. Moi, j'ai fait mon Francis Cabrel à l'époque. Quoi. J'ai vraiment fait. C'était mieux avant. Quoi,
bah, pourtant, il se jouait au pad. Non, il se jouait pas au pad. Il se jouait à la souris.
Celui-là. Il jouait à la souris.
Mais il y avait des super idées de gameplay. Par exemple, quand il y avait un objet important dans le décor, comme c'était la 3D, et que c'était moins facile de les repérer qu'en 2D. Donc la tête de Calavera, la tête de Mani, donc suivait, fixait l'objet et le suivait du mouvement de la tête comme ça pour te repérer. Et c'est un truc après qu'on a retrouvé dans un milliard de jeux, quoi. Une idée toute conne, mais finalement ultra efficace. Mais pareil, enfin, Grim Fandango, moi je le prends dans son ensemble. Et d'ailleurs, je considère que les jeux de Tim Schafer, généralement, faut les prendre dans leur ensemble, parce qu'il y a toujours des points, il y a toujours un point ou deux qui merdent dans tous ces jeux. Mais finalement, quand on le reprend dans la globalité, c'est toujours bien construit. Et Grim Fandango, à ce niveau-là, je pense que c'est son jeu le plus abouti d'un point de vue global.
Et qu'il y avait un packaging de ouf malade.
Même la jaquette était super belle.
En tout cas, ça marque son dernier jeu, sa dernière collaboration avec LucasArts, puisque après Grim Fandango, il quitte la société en 2000 pour fonder sa propre boîte. Ça s'appelle Double Fine Studios, composée vraiment en grande partie par des gens qui ont travaillé justement sur Grim Fandango, son dernier jeu LucasArts. Cette fois-ci, il part à San Francisco et il sort, mais alors bien plus tard, il va prendre du temps, en 2005, Psychonauts, qui est une aventure très particulière, vraiment assez barrée aussi. Mais alors, un, pourquoi autant de temps? Deux, qu'est-ce qu'apporte vraiment ce jeu? Qui est très différent de ses productions du passé. Hein. Là, on est vraiment dans un autre univers et dans un autre style de gameplay même. Raon.
Un autre univers, oui, comme d'habitude, là, pour le coup. Mais après, effectivement, c'est aussi un jeu console.
Bah voilà, c'est sûr.
Et c'est peut-être... Enfin, alors, je sais pas si c'est forcément ça qui a motivé le design lui-même, mais c'est un jeu qui ressemble plus à un jeu d'action. Enfin, on appellerait ça aujourd'hui un jeu d'action-aventure, où tu te balades en 3D dans des univers, qu'un jeu d'aventure lui-même. C'est-à-dire que le genre du point and click est plus ou moins disparu depuis pas mal de temps.
Ben justement, enfin lui, il part de LucasArts en partie parce que Grim Fandango a fait un four commercial. Ouais. Enfin, LucasArts dit que ils ont atteint les objectifs, mais bon, 400 000 exemplaires vendus, c'est quand même pas grand chose. Donc on peut considérer que c'est un four et du coup.
Ça c'est pas sur Psychonauts.
Effectivement, je me trouve sur les exemplaires. Grim Fandango, je crois que c'est à peine 500 000.
Ouais,
voilà, j'avais trouvé les chiffres, ils sont fluctuants. Je sais qu'aux États-Unis, ça a été un vrai four. Je crois qu'ils en ont fait que 100 000.
Et tu sais, les États-Unis et le Tché, ils avaient comment dire.
Bref,
ils ont un peu de mal. Hein.
En tout cas, comme le jeu n'a pas marché et que visiblement le point and click était un peu mort dans l'esprit de LucasArts, qui commençait déjà à partir en couille. Hein. C'était déjà la fracture.
C'est la fin de l'époque.
Ouais, la fracture avec les fans et les développeurs commençait déjà à se sentir. C'est-à-dire, on va faire du Star Wars.
Bah, c'est le moment des suites en fait.
Voilà, et pas grand-chose d'autre. Donc lui se casse et fonde Double Fine. Donc ils le fondent en 2000. Donc voilà, donc Grim Fandango c'était en 98 et ils fondent le studio en 2000. Donc on peut facilement imaginer que le temps de monter la structure, de recruter les gens.
Ça fait déjà 2 ans qu'ils partent.
Voilà.
Plus c'est 3 ans de développement quoi.
Après le développement, et non, parce que l'ami Tim Schafer, c'est un mec qui a pas beaucoup de chance. Donc au départ, Psychonauts était dealé pour être une exclue Microsoft, et donc financé.
Oui, effectivement, on l'a pas précisé, mais il est sorti sur Xbox 1,
première du nom. Voilà, il était prévu pour être donc une exclusivité Microsoft, et Microsoft les a lâchés en cours de route, sans vraiment donner de raison valable, mais c'était finalement, ça nous intéresse pas.
Mais c'est effectivement, elle a vraiment pas de chance parce qu'on va le voir dans quelques instants. Ça s'est reproduit pour Brutal Legend,
ouais, mais
d'une certaine autre manière.
C'est un peu le drame de sa vie, on va dire. C'est un mec qui fait des jeux brillants, mais qui se vendent pas. Donc ouais. On en parlera plus tard. Et donc, il a fallu le temps de trouver un autre éditeur. Donc, qu'ils ont trouvé un peu in extremis chez Majesco. Mm-hmm. Voilà. Et donc, du coup, comme c'était plus une exclusivité Microsoft, ils l'ont lancé simultanément sur PC et PS2.
Mais c'était comme tous les autres jeux, pour revenir sur le jeu lui-même, une fois qu'il est sorti, vous pouvez déjà le récupérer aujourd'hui en Xbox Originals sur le live. C'est lui effectivement qui a vendu 400 000 pièces, mais c'est hors téléchargement et hors les ventes par l'intermédiaire de la boutique officielle de Double Fine. Et on n'a pas trop situé l'univers, mais en fait c'est l'histoire d'un gamin en particulier et de jeunes types qui ont des pouvoirs psy, enfin l'équivalent de pouvoirs psy, et qui se retrouvent dans une école. Et en fait, chacun des niveaux du jeu va explorer la psyché d'un autre personnage. Donc tu vas te retrouver à l'intérieur du subconscient de ces personnages. Donc évidemment, chaque niveau est hyper différent des autres. Et chaque niveau, pour le coup, alors on parlait tout à l'heure de cette espèce de logique un peu bizarroïde de ces jeux LucasArts et tout ça. Là, c'est dans chaque niveau qu'il y a une logique qui est celle du personnage dans l'inconscient duquel tu te trouves, quoi. Et donc, avec un gameplay beaucoup plus orienté action, plateforme, avec des scènes barrées, des scènes de puzzle particulières dans chaque niveau et tout. Donc très varié et un petit peu à l'image du reste, avec des choses un peu plus faibles en termes de gameplay, pas forcément aussi bien réglées qu'elles auraient pu l'être et tout. Mais du point de vue artistique, du point de vue de l'histoire, des personnages et tout, ça reste brillant, quoi. Voilà. Donc c'est un jeu qui a vraiment une forte communauté et une très bonne réception critique, qui a pas vraiment bien marché commercialement,
des super notes. On n'aime pas trop parler de notes, nous, mais bon, bah en l'occurrence, pour le temps finalement c'est ce qui reste, de très bonnes notes, un gros succès critique. Pareil chez les joueurs qui y ont joué, il y a pas mal de cosplays encore qui se font, même maintenant. Il est balancé sur son blog, Tim Schafer a balancé, il était allé à la PAX et il a encore croisé des gens qui étaient cosplayés en personnage de Psychonauts.
Moi je me rappelle, ça a été l'une des fois où j'avais une grosse interview de lui après l'échec commercial de Psychonauts, et vraiment, mais il tirait la gueule
ça l'a profondément affecté.
Ça l'a profondément blessé, ouais, de cette arrivée sur console qui s'est globalement pas bien passée.
Déjà, c'est un projet qui a né dans la douleur quand même. Il a eu du mal à le sortir, donc ça renforce encore plus l'attachement affectif que tu peux avoir avec un projet de cette envergure.
C'était son premier vrai bébé dans sa boîte à lui qu'il a créé.
C'est aussi son premier jeu console. Ça a été vraiment un chemin de croix, j'imagine, pour cette personne. Et le fait du coup d'être très apprécié par tous ceux qui y ont joué, mais finalement d'être peu joué. C'est ce qu'il y a de pire finalement, je pense, pour n'importe quel artiste, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que ça soit par exemple, je sais pas moi, un album de Zik où tous ceux qui l'écoutent, il est génial, mais personne l'a écouté.
Alors Psychonauts a gagné un nombre de prix du le meilleur jeu dont personne a joué.
Ouais.
Mais c'est-à-dire IGN l'a décerné, One Up, à peu près tout le monde. Tout le monde lui a filé.
C'est comme un succès posthume, quoi, si voilà. Tu veux. Donc c'est un peu dommage.
Ça fait une belle jambe, ouais.
Voilà. Mais bon, il est encore disponible aujourd'hui, et pour ceux qui veulent s'y essayer, et ça vaut le coup.
Bah, d'ailleurs, encore une preuve que donc des succès, donc du succès critique et de la demande des joueurs, c'est que finalement, c'est un des premiers jeux à s'être retrouvé donc sur le Xbox Live
Originals.
Dans la gamme des Originals. Ouais.
Ouais, parce que, mais c'était suite à la demande des joueurs, quoi. C'était vraiment les joueurs qui écrivaient à Microsoft, donc parce qu'ils avaient une liste donc des jeux à foutre en priorité, et Psychonauts est arrivé. Pas en tête, hein, mais en tout cas dans les premiers. Donc c'est pour ça que c'est un des premiers jeux à s'être retrouvé là-dedans.
Le bouche à oreille l'a transformé en long-seller en fait. Donc il n'a pas forcément fait un. Enfin, c'est clairement pas un carton, mais c'est pas non plus un four au final, quoi.
Non,
mais
au final, ouais.
Ça a été très très long, quoi.
En tout cas, y a-t-il une malédiction Tim Schafer ? C'est un peu la question quand même qu'on peut se poser, puisque Bis Repetita, le projet d'après, c'est Brutal Legend.
Bon, et ça a failli ne pas sortir non
plus. Ça a failli ne jamais sortir, parce que le problème s'est posé lors de la fusion en fait entre Activision.
Ouais, ça c'est un petit peu différent comme histoire.
Voilà, le jeu a complètement passé à la trappe et a été sauvé in extremis par Electronic Arts. Qu'est-ce qui s'est passé, Ra ?
Ça a été il y a eu une étape de plus encore. C'est que, alors à la base, c'est Sierra qui devait le sortir. Sierra, qui a été donc au moment de la fusion entre Activision et Blizzard, a disparu. Tous ces jeux se sont, enfin, pas tous ces jeux, mais.
Ils ont été absorbés.
Ont été absorbés, mais certains. Activision ne voulait pas les sortir. Voilà.
Ils ont donc, fait le tri.
Brutal
en fait,
Legend faisait partie des jeux qui ont été écartés. Mm-hmm. Des jeux Sierra où Activision a dit bah non, ça marchera jamais, on n'en veut pas. Du coup, rebelote, Double Fine se retrouve et Tim Schafer et son équipe à devoir chercher un nouvel éditeur, à pouvoir recaser le projet. Sauf que il y a eu des contrats de signer, des choses comme ça qui ont compliqué un petit peu l'affaire, hein, jusqu'au dernier moment en fait.
Angel, tu veux préciser les choses ?
Oui, non, c'est pas une précision, c'est plus une anecdote. Dans les trucs marrants, Activision, en fait, dans les réunions qu'ils avaient eues avec Activision, Sierra et tout ça, on leur avait dit donc, mais en fait, au lieu de faire un jeu sur l'univers du métal, ce serait pas mieux de le faire sur le rap ?
Ouais.
Donc ce serait.
C'est-à-dire le rap c'est plus vendeur. Tu vois,
ouais, voilà, parce qu'il avait dit.
Et là, je pense qu'il a eu envie de mourir.
Le rap c'est plus vendeur, donc effectivement, il a eu envie de mourir. mais le coup de cul a fait que à ce moment-là, il y a un certain jeu que je ne sais pas si vous connaissez, Guitar Hero,
oui.
Qui est sorti et il a eu un petit succès. Donc finalement, les mecs d'Activision se sont dit non, en fait, le rock c'est pas mal. Voilà. Et non, tu peux continuer.
Mais ce qui est rigolo, c'est que cette histoire-là, finalement, elle est dans le jeu. Puisque le côté le métal ça marche pas, donc le rock,
ah oui, c'est
ça
tout le début
pas,
du jeu, ouais.
C'est tout le début du jeu, tu vois. Donc c'est assez rigolo de voir qu'il y a un parallèle entre le truc qu'il avait écrit avant,
le côté has-been du métal.
Voilà.
Maintenant, ça va être intéressant de voir les ventes.
Ça c'est
comment
clair,
ça va
hein.
se passer. Qu'est-ce que vous en pensez justement parce que le jeu, bon bah.
Alors, du coup, Activision a lâché la grappe. Ils ont quand même retrouvé Electronic Arts derrière, mais ça n'a pas été de tout repos. Activision, alors apparemment, il y a eu des imbroglios entre Activision et Electronic Arts qui se sont disputés les droits à un moment où Activision disait non, finalement vous n'avez pas le droit de le récupérer, et il ne voulait pas que ça sorte en fait, semble-t-il, hein, en tous les cas Activision ne voulait pas que le jeu sorte parce qu'il voulait lancer Guitar Hero lequel, le 5, je ne sais plus, en même temps,
le 5.
Et en fait ils ont plus ou moins cherché à retarder un petit peu la sortie. Il y a eu des déclarations à cette époque-là où
c'est quand même pas très concurrent, disait, hein, on ne cherche pas la même chose dans un Guitar Hero et un Brutal Legend, à part que ça parle de rock.
Ouais, mais bon, enfin, en tous les cas, c'est, apparemment il y a eu un coup de flip. Schafer et d'autres ont dit vous ne tuerez pas les Brutal Legend. Electronic Arts a quand même soutenu le projet énormément.
Énormément, moi je trouve. Hein. On a énormément vu Tim Schafer ces 6 derniers mois.
Ouais,
comme on l'a jamais vu. Quoi.
Alors, d'ailleurs, enfin, moi j'étais très content personnellement. J'espère du coup qu'il va marcher. Mais je pense que c'est ça aussi qui a dû foutre un peu
la haine à Activision.
La haine à Activision de dire nous ce jeu on n'en voulait pas. Et en face, on a les plus gros éditeurs du monde qui non seulement le reprend, mais en plus le pousse d'un point de vue marketing. Mm-hmm. Est-ce qu'on n'aurait pas fait une connerie quand même
Les apparitions de Jack Black,
ouais,
etc.
Est-ce qu'on n'aurait pas raté un truc?
Je suis pas sûr. Caf. Justement, là je pense que c'est plus Tim Schafer lui qui a tiré les enseignements du plantage de Psychonauts, parce que c'est pas vraiment EA qui a poussé le truc derrière, hein. C'est une succession d'opportunités. C'est Tim Schafer qui a décidé de se mettre en avant, chose qu'il ne faisait jamais avant. Donc il a décidé d'accepter plus d'interviews, il a été au devant du truc, certainement aidé évidemment par le service.
Oui, parce qu'à
l'E3,
aux conférences, il était bien toujours sûr présent, il y a toujours un petit show.
Mais le coup de bol dans l'histoire, c'est que donc le
c'est
mec
Jack Black,
c'est Jack
évidemment.
Black, parce qu'en fait il propose à Jack Black de faire les voix. Jack Black accepte direct, trouve le projet génial en 2 secondes, alors que la présentation c'était dans une chambre d'hôtel machin.
Oh, c'est Jack Black, hein.
Ouais,
voilà.
Ouais, non, mais alors justement,
il fait l'amour à des consoles,
ouais,
Jack
mais
c'est vrai. C'est vrai.
Alors, mais Jack Black, en fait, si un double coup de cul, il se trouve que Jack Black avait joué à Psychonauts. Alors déjà, il n'y en avait pas beaucoup,
ouais.
mais il se trouve que dans le lot, il y avait Jack Black et qu'il avait adoré.
Ouais,
donc,
non, mais voilà.
Donc justement, sa réponse a été écoute, quand il a proposé, il dit j'ai une proposition à te faire. Il a dit écoute, avant toute chose, il faut que tu saches que t'es mon créateur de jeux vidéo préféré. Donc, oui.
Là, à partir de là, la discussion s'engage plutôt bien, c'est clair. Mais dans l'histoire, c'est que Jack Black aurait très bien pu faire, c'est quand même une star, faut pas l'oublier.
Ouais.
Et il aurait pu très bien faire genre, ok, super, je fais les voix, je me casse. Mais en fait, pas du tout. Il a fait un truc de malade. Il s'est pointé au MTV Awards déguisé en Eddie, enfin le héros du
super
jeu.
Super baraqué.
Avec voilà, des trucs, quoi, des muscles en mousse.
Il a fait de la com,
etc.
À fond, ça, y a pas de
doute. Attends, sur MTV, il en a fait 3 tonnes. Il a été faire des interviews redéguisé avec ce putain de déguisement, etc.
A cassé complètement toute la scène, etc. Ouais, à la fin,
il a
se vénère.
Tout donné pour faire buzzer à mort le jeu, que les vidéos soient sur le net. Il en a parlé. Il en a parlé dès qu'on lui pose une question. Il arrive à caser Brutal Legend alors que c'est pas le sujet.
En fait, il est traité, c'est simple. Il est traité comme un de ses films ou un de ses CD.
Ouais,
vraiment, vraiment, pour lui, c'était pas un truc à part. C'était pas un truc qu'il a fait pour se marier. Enfin, un truc parce qu'il avait du temps
libre.
Enfin,
s'il avait pour se marier, parce qu'il fait tout pour
se marier. Non, mais il a pas fait ça genre sur son temps libre, tu vois, comme peuvent faire les autres ou alors pour gagner un peu de blé. Il
comme pourrait faire un rappeur, quoi.
Ouais,
voilà.
Non, mais il l'a pris vraiment au sérieux et pour lui, je sais, j'ai rien lu là-dessus, mais.
La dernière fois qu'il nous a appelé, nous l'a dit.
Mais je pense qu'il l'a pris, comme n'importe lequel de ses films ou de ses CD avec Tina Chuzzi, quoi. Pour lui, c'était exactement la même chose, quoi.
Ouais, carrément. Moi, c'est l'impression qu'on a en tout cas de l'extérieur.
Et du coup, il a poussé d'ailleurs. Enfin, moi, Tim Schafer, quand je l'ai interviewé, il a dit effectivement, ça nous a vraiment aidé, quoi, d'avoir un mec qui aille comme ça jusqu'au bout des choses. Et puis, non seulement, bon, déjà parce qu'il permet de faire la promo, et en plus, ça donne un peu de baume au cœur, tu vois, pour bosser.
Ah, bah, il a tout donné.
D'avoir quelqu'un qui le soutient, oui, parce que quand même, le mec se prend des claques sur claques à chaque projet en se faisant abandonner. Soit par les circonstances, soit par des partenaires de business, et là pour une fois il tombe sur quelqu'un qui le pousse à mort, quoi.
Est-ce que justement pour ceux qui n'ont pas encore joué au jeu, qui l'ont vu peut-être furtivement ou qui n'auraient pas encore lu ton test, on pourrait là en 2-3 minutes, tu pourrais résumer un petit peu l'expérience Brutal Legend? C'est pas facile, mais pour ceux qui, bah justement, qui découvrent peut-être Tim Schafer là, avec ce podcast.
Alors Brutal Legend, alors on va se répéter, on va le dire pour la 15e fois de ce podcast, c'est un univers complètement original, complètement barré.
Mais c'est lequel? On voit.
Alors là, c'est...
En fait, le principe de base, c'est imagine, enfin, c'est les pochettes de métal de l'époque transposées en numéro, en univers vivant avec ses personnages, ses codes, sa musique évidemment et ses challenges.
Avec toute l'imagerie que ça implique, à savoir les démons, tout est démoniaque, tout est dur, on boit de la bière.
Il y a trois matières dans le monde, c'est le feu, le métal. Et
ouais, on est des vilains garçons. Tous les personnages qu'on croise, ils seront tous torse-poil avec du cuir, parce que machin.
Des clous, des cheveux longs.
Et ils ont tous les cheveux longs, et c'est tous des ardos. Ça va jusqu'au bout du délire. Ouais. Ça va jusqu'au bout du délire, mais tout en étant respectueux, c'est-à-dire c'est jamais la caricature.
Et c'est là où c'est super fort.
C'est pas Spinal Tap. C'est-à-dire parce que Spinal Tap, c'est une parodie, ça ridiculise un peu le monde du hard rock. Là, pas du tout. Ça reste drôle.
Ah, oui et non.
Ça reste drôle.
Parce
mais
là où c'est génial, c'est que.
Raon et Mr. P sont peut-être pas forcément d'accord.
Si, si, je suis d'accord avec le fait que ce soit super respectueux, mais j'en rajouterai quand même une couche, c'est que ça reste autodérisoire malgré tout. Il y a quand même un côté où on se moque un petit peu de ses codes et du fait que c'est vrai, le métal de cette époque-là, en tous les cas, est un peu has-been, mais ça reste avec tendresse, tu vois. La façon dont c'est fait, c'est pas pour se moquer,
exactement,
c'est pour rendre
tendresse.
Hommage.
Il y a beaucoup de tendresse en fait dans ce jeu. C'est con à dire parce que c'est carrément antinomique par rapport au métal.
Oui.
Mais en fait, c'est un jeu qui est plein de tendresse.
C'est logique.
Oui, mais alors, ce que je voudrais savoir, c'est quoi ce jeu?
Et
au-delà
donc,
de tout cet enrobage.
Alors donc, le pitch pour faire court, donc on dirige Eddie Riggs. Eddie Riggs, c'est un mec qui, dans notre monde à nous, le monde de tous les jours, c'est un roadie. Alors un roadie, pour ceux qui sont pas dans la musique, un roadie, c'est les mecs qui accompagnent les groupes en tournée et qui sont là pour monter les scènes, s'occuper des câbles, accorder les guitares.
Qui se démerdent pour que le concert ait lieu. Quoi,
voilà, dès qu'il y a une merde sur scène, dès que quand tu vas voir un concert
et que
tu vois le guitariste qui pète une corde et qui regarde un mec comme ça nonchalamment. Et qu'il y a un mec qui se ramène avec une nouvelle guitare, bah, le mec qui se ramène avec la nouvelle guitare, c'est le job d'Eddie Riggs. Et c'est un mec qui, pour lui, c'est un sacerdoce. C'est pas juste un job. Tu vois, lui, il prend ça vraiment super à sérieux.
C'est même le meilleur guitar tech, quoi. N'importe quelle guitare détruite, il la répare.
C'est le meilleur roadie. Et donc, lui, il vit dans l'ombre, mais il aime bien ça, vivre dans l'ombre. Tu vois, c'est le vrai roadie à l'ancienne. Et il se rend compte que la musique maintenant, bah, il bosse pour des groupes qui sont à des années-lumière de toute sa philosophie du rock'n'roll et du heavy metal, et ça le déprime. Donc un jour, il y a un accident sur scène, il y a un stage à la Michael Jackson, sauf que c'est pas un spot qui se prend dans la gueule, c'est tout un décor de plusieurs tonnes. Ouais. Et il y a du sang qui coule sur sa boucle de ceinture, donc magique. magique et mystérieuse. Et il se réveille donc dans un univers où les pochettes de tous ses albums de heavy metal
prennent vie.
ont pris vie. Donc les décors, c'est l'enfer.
Une énorme guitare
c'est,
plantée dans
voilà,
le sommet d'une colline.
Il y a des montagnes de guitares, il y a des crânes partout, il y a des volcans, il y a des mastodontes qui se baladent, les voitures, c'est des hot rods. Tu vois, voilà. Mais il se trouve que ce monde, en fait, est régi par un super démon qui est ultra méchant et qui a asservi l'homme. L'homme donc est réduit à l'état d'esclavage et dont certains d'ailleurs, ce que je dis dans le test, se sont réduits en fait à creuser les mines à coups de tête comme ça, oui. En aide bangant parce qu'ils ont les cheveux longs comme l'air rocker.
Du coup, ça, ils ont des coups de taureau de malade mental.
Et donc lui va partir en quête dans une quête débile mais qui finalement est parfaitement carré parce que c'est ça hein, on retombe dans le chef-d'œuvre
dans cet univers là c'est super logique
c'est super logique donc il va partir en quête pour redonner la liberté donc aux êtres aux humains.
Et c'est un jeu d'action, c'est une sorte de grand
beat'em all.
Ça mélange plein de choses. C'est un jeu d'action dans un environnement entièrement ouvert à la GTA, mais version hard rock, imagerie machin. Donc on peut explorer l'univers comme on le souhaite. Par contre,
mais il est pas très grand l'univers, c'est ça?
Bon, c'est pas gigantesque, c'est pas GTA non plus.
Mais quand même.
Mais c'est quand même assez grand. Ouais. Il y a pas mal de lieux à voir, il y a de la vie, il y a des bestioles qui se baladent, il y a des quêtes aussi qui vont s'ouvrir au fur et à mesure du jeu, facultatives ou non. Il y a ses défauts, hein. Il y a des quêtes qui sont assez répétitives, etc. Mais c'est vraiment un univers entier dans lequel tu plonges. C'est un jeu d'action, aventure, avec aussi un côté stratégique qui se développe au fur et à mesure du jeu, où tu vas commencer à préparer des scènes de concert.
Ça fait marrer Angel.
Oui, mais non, parce que c'est impossible à décrire. En fait, c'est impossible à décrire. Alors le principe, c'est donc il y a des mini scènes de RTS où en fait donc on reprend tous les codes du jeu
du stratégie temps réel où tu vas construire tu vas ramasser des ressources, c'est les fans,
des geysers de fans
voilà qui vont alimenter ta scène de concert qui est en fait ta base.
Mais pour les exploiter, ils font construire donc on va dire comme une distillerie, sauf que là la distillerie c'est un stand de goodies et merchandising voilà. Qui permet de transformer donc cette énergie des fans en ressources pour entraîner des unités
en fait voilà. Donc ça va être des handbangers, ça va être des mecs en moto qui vont soigner tes autres troupes, ça va être des nanas qui vont se trimballer avec des fusils etc. Enfin c'est que c'est vraiment genre si tu devais faire un stratégie temps réel avec
squelettes de sangliers
squelettes de sangliers qui n'ont pas de pattes mais des deux roues.
D'accord.
Ok. Enfin bref, c'est que des trucs comme ça. Et donc après avec une histoire avec des personnages avec beaucoup de guest starring et de featuring de gros noms.
Ozzy Osbourne fait une apparition que moi je qualifie de extraordinaire.
Oui, il est génial.
Enfin son apparition, sa première apparition, c'est waouh, Ozzy. Et enfin parce que on va pas spoiler mais
enfin vous verrez dans le jeu, enfin il y a Ozzy, il y a le chanteur de Judas Priest,
il y a Lemmy de Motorhead, il y a Rob Halford de Judas Priest.
Pour ça, jouez-y en VO sous-titré français.
Bien sûr, ouais.
parce que c'est eux qui ont doublé et ils sont fantastiques.
Ils sont vraiment bons, c'est étonnant d'ailleurs, c'est ce qu'il expliquait en interview, c'est que alors non seulement ils ont accroché au concept, ils y ont pas vu parce qu'il faut pas rigoler avec les hard rockers. Moi j'ai vu un documentaire j'avais vu un documentaire sur les hardos où en gros quand tu disais le rock and roll c'est de la merde, ils prenaient leur guitare et te la cassaient dans la gueule. Et puis moi j'avais dit t'as pas peur quand même, il a dit non, ils l'ont super bien pris, ils ont compris que c'était un hommage, qu'on se foutait pas de leur gueule et du coup les mecs, les doubleurs, ils ont vraiment super bien fait leur boulot et je suis étonné. On savait qu'Ozzy Osbourne était bon parce qu'on l'a déjà vu sur MTV. Mais
Lemmy
est bon, Rob Halford il est ultra bon, Lita Ford se débrouille vraiment bien.
Ils ont tous des personnages clés dans l'histoire du jeu.
Ouais, c'est un vrai personnage secondaire, des espèces de second couteau, mais qui ont tous quand même leur
avec
background.
Des super pouvoirs où tu peux pas le croire tellement c'est n'importe quoi.
Et ouais, donc par exemple Lemmy c'est le guérisseur. Bon, on peut le dire, c'est pas un gros spoil. Lemmy donc de Motorhead, il joue le rôle d'un guérisseur et il guérit les gens en jouant de la basse.
Ouais.
Parce que c'est le bassiste, il joue de la basse dans Motorhead. Et donc.
C'est lequel qui a les cheveux de folie là.
Et ça c'est le personnage joué par Rob Halford et qui je pense un hommage à toutes ses sisters. Mais très appuyé. Et oui, et puis c'est marrant de voir les factions qu'on se boit, enfin il y a une vraie c'est c'est logique, c'est vraiment carré quoi. Par exemple, l'affection qu'on se boit, contre lesquelles on se bat, c'est les fans de Hardos reconnaîtront les trucs. C'est-à-dire les premiers, c'est le glam. On se bat contre le mec, c'est du glam.
Oui, ça c'est les factions donc effectivement qui sont les ennemis entre guillemets du métal quoi. C'est-à-dire que
c'est le glam, c'est le glam pour ceux qui connaissent pas, c'est tous les mecs qui étaient vraiment ultra peinture lurée quoi. Mmh. Où là c'était parce qu'il y avait les Hardos donc les vrais, ceux, tu vois, c'est les hommes qui se baladent torse nu.
Qui sentent un peu.
Voilà. Et après il y avait eu tout un mouvement. Donc le glam où les mecs ça avait déjà les cheveux teints en rose, toutes ces sisters et compagnie, avec où c'était très bariolé on va dire, et donc c'est une faction ennemie contre qui on se bat, et après on se bat contre les emo, qui est aussi tu vois, le emo c'est aussi un autre truc que les Hardos détestent. Donc finalement c'est très logique quoi, ça explore vraiment l'univers du métal.
Tokyo Hotel, bonjour.
Pour conclure sur Brutal Legend, Mr P.
Non, moi il est toujours à la poste en fait.
D'accord.
Pour l'instant j'ai fait que la démo, mais j'ai tout adhéré complètement.
Non, et puis moi je vais conclure, et je pense que Raon sera d'accord, c'est que c'est un jeu qui transpire la sincérité, mais vraiment. Ouais. C'est-à-dire, il y a rien, tu sens qu'il y a rien qui a été fait par un quelconque effet de mode, où les mecs s'est dit tiens, on va faire ça, parce que de toute façon c'est dans l'air du temps. Mm-hmm. Lui et toute son équipe, hein, parce qu'ils sont quand même pleins à avoir bossé dessus, c'est. Ils ont vraiment fait le jeu qu'ils avaient envie de faire avant tout. Mmh. Et ça arrive plus, quoi.
Et à mon avis, le seul reproche qu'il va avoir par les non-fans ou par les gens qui adhèrent pas, qui sont pas des fans de Tim Schafer, etc., qui vont vraiment prendre le jeu comme un produit commercial de base, etc., qui vont l'analyser froidement, c'est un peu ce qu'on reprochait peut-être à Full Throttle, c'est qu'il y a des imperfections dans le gameplay, il y a des choses qui coulent pas de source. Dans le gameplay, hein, pas dans l'écriture, pas dans les personnages, etc. Et c'est ça qui va refroidir et qui va un petit peu ennuyer les gens.
C'est vrai que si t'en fais une analyse très froide, vraiment.
Très textuelle,
ouais, voilà.
Ouais.
Il y a des vraies imperfections ludiques, il y a des moments où c'est confus, par exemple, dans le stratégie temps réel. Il y a des...
Techniquement, mais, c'est un peu faible aussi, faut
mais
le
tu
dire.
Dis.
C'est...
Ouais,
un
wow.
petit peu.
Ouais.
Il y a des gens qui disent que ça ramouille
c'est,
sur certaines
non, techniquement, ouais. C'est un peu en dents de scie. C'est-à-dire, il y a des trucs où tu dis ouah, et après, moins.
Tu vois, tu te prends, je schématise, et c'est pas du tout la même catégorie, mais tu te prends dans la gueule Uncharted 2, juste à côté,
ouais.
Tu prends ça, ça boxe pas dans la même catégorie, on est d'accord.
Ouais.
Mais il y a un gap où les gens vont se dire, bah ouais, mais bon, là, visuellement, il y a un problème.
Mais je crois que justement, c'est ça qui est marrant, c'est que dans l'esprit donc, de Double Fine et Tim Schafer, par exemple, c'est pas grave en fait, c'est pas ce qu'ils visent.
Ah, mais c'est clair.
Je pense vraiment, c'est même pas des mecs qui ont essayé de faire le plus beau jeu possible. Ils ont juste eu un design.
Si, là je suis pas d'accord par contre. Ils ont essayé de faire le plus beau jeu qu'ils pouvaient faire.
Ouais, mais ils ont un design et c'est avant tout le design qui a primé. Et ça,
parce que la direction artistique, elle est irréprochable.
La direction artistique, ça a tombé par terre quoi. Mais n'importe quel détail, tout est soigné. Il y a plein de décors différents. C'est
et
vraiment...
surtout, c'est un jeu qui fait marrer dans les premières minutes.
Ouais.
Et ça, c'est juste priceless.
Et donc, ouais, comme tu disais, en fait, Brutal Legend, comme d'ailleurs tous les autres jeux de Tim Schafer et de l'école LucasArts de l'époque, c'est un jeu qu'il faut regarder dans sa globalité et pas point par point, justement.
Enfin, après,
faut pas faire un test ou comme toi, Julien, t'aimes bien dire, tu vois, les contrôles techniques. Mm. Faut éviter les contrôles techniques.
Ah bah là,
voilà.
Sinon,
si tu lui fais passer
un
contrôle technique,
pas,
c'est sûr que c'est pas bon.
Bon, mais effectivement, c'est vrai aussi que il y a forcément, c'est un jeu qui s'adresse à des gens qui ont une certaine culture, un certain âge peut-être, ou une certaine envie, parce qu'on n'en a pas parlé, mais mine de rien, là-dedans, il y a quand même une bande son avec plus d'une centaine de morceaux intégraux, qui sont tous des morceaux mythiques pour ceux qui ont connu cette époque-là. Mmh. Effectivement, bon, quand t'as pas l'attachement avec cet univers et quand t'as pas ce truc, je peux comprendre que ça soit un truc. Mais c'est comme n'importe quelle autre œuvre. Après, bon, c'est pas ton truc, voilà. Mais
ouais, voilà, c'est-à-dire un bon film. De toute façon, ne fera jamais l'unanimité. Un bon CD, enfin un bon album, ne fera jamais l'unanimité. Un bon bouquin, pareil. Enfin, on ne peut pas plaire à tout le monde.
Si vous êtes un fan de glam ou emo,
a priori, ça va
être
bloquer.
Tendu.
Bon, allez, pour conclure sur cette saga Tim Schafer qui est vraiment passionnante, vraiment à l'image de l'homme, justement, bah, j'aimerais qu'on se reconcentre un instant sur Tim Schafer en lui-même, avec des choses très intéressantes, hein, qu'il fait par exemple sur son site internet. Le fait par exemple, Angel, de publier des webcomics dessinés par des membres de son équipe, qu'il appelle lui la Double Fine Action Comics. C'est quelque chose de finalement assez rare, mais c'est donné aussi un petit peu d'éclairage à toute son équipe, aux membres qui l'accompagnent.
Ouais, ça, il me disait déjà en interview, quoi, il aime avoir une équipe, il aime avoir l'équipe la plus restreinte possible pour que tout le monde puisse savoir ce que fait tout le monde. Et il faut connaître les noms et puis savoir quel job et que tout le monde puisse discuter et dire tiens, c'est, j'aime beaucoup ce que vous faites en gros. Tu vois, pas se retrouver avec une grosse machine, avec un gros studio Electronic Arts où ils sont 500 et finalement, où finalement ça reste plutôt impersonnel et on sait pas ce qu'on fait.
Bah finalement, revenir un peu aux origines, quand à l'époque de LucasArts, ils trouvaient qu'ils bossaient qu'avec des génies. Et
voilà,
où il y avait pas travailler avec 900 génies non plus.
Voilà, il m'expliquait aussi justement que c'était plutôt difficile parce qu'avec la technologie, tu dois toujours faire mieux, donc ça devient
très
plus
sincèrement, moi je trouve que le fait d'être arrivé à ce qu'il a produit avec Brutal Legend et Double Fine, c'est prodigieux dans ces conditions là.
C'est clair.
Avec une petite équipe, pas 30 milliards d'années non plus pour le faire, toutes les merdes qu'il a connues, le résultat est prodigieux pour moi.
Et pour conclure ce podcast, lorsqu'on lui pose la question de savoir, question tellement éculée, mais à la fois, parfois on aime bien savoir ce qu'en pensent les créateurs de jeux vidéo. Le jeu vidéo est-il un art ? Angel, je vais laisser le mot de la fin. C'est une question qui commence à le faire réagir ?
Ça l'endort. Ça l'endort. Donc, dans une interview écrite à la question « Est-ce que le jeu vidéo est un art ?» il répondait donc du ronflement, il disait ah désolé je me suis endormi, est-ce que tu peux répéter la question. Donc ça l'empêche pas d'avoir un avis je pense bien évidemment, mais c'est vrai que c'est une question tellement éculée que voilà,
ça résume bien le personnage je trouve.
Ouais. Il aime pas trop se prendre la tête quand même sur ce genre de questions,
mais même le nom de sa boîte en est la preuve. Double Fine,
voilà,
parce que ça vient de
Double Fine, c'est une autre histoire. Donc ça vient de alors le nom de sa boîte, donc Double Fine, c'est assez débile hein, il explique d'une manière encore drôle. Il explique que ça lui vient du Golden Gate, parce qu'ils sont basés à San Francisco, donc ouais. Ça lui vient du Golden Gate. Il expliquait que quand tu traverses le pont, il y avait un panneau à l'époque qui s'appelait Double Fine Zone. Voilà, Double Fine Zone. Et il s'était dit qu'il appellerait sa boîte comme ça, parce que comme ça, tous les gens qui viendraient lui rendre visite penseraient qu'il s'est payé de la pub partout sur le pont.
et depuis, ils ont changé le panneau.
Et qu'en voyant Double Fine Zone, ils diraient que non seulement ils sont payés de la pub, mais en plus que c'est les maîtres de l'univers, vu que tout San Francisco, c'est carrément devenu une zone Double Fine.
Classe.
Et donc ils ont changé le panneau.
Et ils ont changé
maintenant,
le panneau.
C'est au total $5. Et du coup, il a dit que c'était pourri comme nom de boîte et que c'était inexploitable.
Voilà.
Je vous le confirme. Bon, bah, en tout cas, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup, les gars. Merci, Angel. Merci, Kaf, Mr. P, Raan. C'était notre saga sur Tim Schafer, un auteur du jeu vidéo, très clairement, qui, depuis maintenant plus de 22 ans, bah, alimente en rêve ludique et numérique. Angel ?
D'ailleurs, pour l'anecdote qui ne sert pas à grand-chose, mais un des premiers articles de jeux vidéo qui s'est retrouvé dans Paris Match, c'était pour Grim Fandango, qui à l'époque avait été qualifié donc de jeu d'auteur par Paris Match. Voilà.
Écoute, hein.
Une référence.
C'est ça.
Bah, c'était enfin le grand public.
En jeu vidéo, c'était pas mal.
Bah, attends, le grand public qui se met à parler de jeux vidéo pour dire en plus, pour qualifier un jeu de jeu d'auteur. Voilà.
Effectivement. Eh ben merci Tim Schafer, merci à tous. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast, un nouveau sujet, bien évidemment. On partira explorer une fois de plus les arcanes du jeu vidéo tous ensemble. D'ici là, vous l'avez compris, si vous aimez un petit peu le rock ou ce genre de choses, vous pouvez essayer en tout cas Brutal Legend. Il y a une démo qui existe sur PlayStation 3 et Xbox 360
au
cas où.
C'est pas la même.
C'est pas la même sur chaque console. Et puis sinon, on le rappelle aussi, il y a Psychonauts en Xbox Originals et il y a les.
Ah non, je dis une bêtise, c'est pour Bayonetta que c'est pas la même.
Ah bah si tu dis.
Je mélange.
Et il y a Monkey Island qui est ressorti.
J'ai fait la télécharger pour rien, mec.
Monkey Island disponible sur Xbox Live, iPhone et PSN.
Steam.
WiiWare,
non ? Sur Steam.
Y a pas une version sur Wii ?
Non, pas WiiWare.
Ah bon, d'accord.
Pas WiiWare. Non, c'est Monkey Island HD. Donc c'est pas possible.
Voilà.
Pardon, excuse-moi.
Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout jouez bien. Ciao à tous !
Salut.